Alors, ravi de vous revoir. Vous savez quel est le thème de ce premier atelier, qui comprendra bien sûr, comme toujours, 5 séances. C'est un atelier qui concerne les grands décors, c'est-à-dire que, contrairement à ce que nous faisons souvent dans ces ateliers, où nous voyons une œuvre qui a ses limites, une statue, un tableau, que sais-je encore, un objet. Là, nous allons voir des lieux qui concentrent en fait beaucoup de ces éléments artistiques en un seul lieu pour former un grand décor. C'est donc de ça dont il va être question. Cette première séance va être consacrée à un grand décor qui est aussi important que, à mon avis, peu connu. Enfin, je ne sais pas, vous direz tout à l'heure, peut-être que vous connaissez tous et toutes, mais j'ai l'impression que le grand décor que nous allons voir n'a pas du tout la notoriété qu'il devrait avoir. C'est pourtant un grand décor absolument essentiel pour concevoir ce que c'est qu'un grand décor en Occident. Et bizarrement, cet élément qui est un peu clé hein, pour tous les grands décors que nous connaissons, par exemple, en Europe occidentale, est finalement assez méconnu. Alors je vous propose de le découvrir d'emblée. C'est vous, bien sûr, qui, comme d'habitude, allez en parler. Vous êtes prêts pour le découvrir ? Je vais commencer par vous passer 3 ou 4 diapositives de ce décor ou du lieu dans lequel il se trouve pour que après on puisse peut-être en parler un petit peu mieux. Alors je vous passe ces quelques diapositives. On les regarde pour l'instant sans les commenter. On va revenir après, bien sûr, dessus pour les commenter un peu plus. Voilà la première diapositive. Ah oui, vraiment les... Ah oui, enfin il n'y a pas de couleur, c'est blanc, quoi. Blanc alors que beaucoup trop forte. Donc c'est finalement le problème. J'espère qu'ils verront ça parce que c'est compliqué. Parler, faire l'histoire de l'art avec des diapos blanches, c'est difficile. Hein. Bon, enfin voilà, donc ça c'est. Enfin ça n'a rien à voir avec ce que j'ai à l'écran, hein, je peux vous le dire. Bon, deuxième diapo, pas beaucoup mieux. Là. Troisième. Qu'est-ce que c'est ça ? Colibre. Et quatrième. Donc, tout ce que je vous montre là concerne un grand décor, à l'intérieur et là, à l'extérieur, vous l'aurez compris. Et ces éléments devraient vous permettre, dans un premier temps, alors peut-être, qui sait, de reconnaître de quel grand décor il s'agit, je ne sais pas, hein. Sinon, même si vous ne l'avez pas reconnu, de pouvoir commencer à en parler un peu. Alors on va revenir sur ces diapositives, peu à peu, et parler de façon globale de ce grand décor. Après, nous allons avoir à... je dirais, plonger dedans. On va l'analyser complètement, ce grand décor-là, pour voir de quoi il s'agit. Mais je voulais déjà vous en montrer des vues générales pour qu'on dompte un peu la bête et qu'on sache de quoi il s'agit. Alors, qu'est-ce que vous inspire ces diapositives en commençant par cette première-là ?
C'est en France ou pas ?
Ah, ça, je ne le dirai pas.
Dans un pays chaud.
Dans un pays chaud.
C'est le sud.
Italie.
Donc on serait dans le sud et pourquoi pas en Italie, ok.
Oui. Bah, surtout la dernière, l'extérieur, ça peut être
la dernière. Ah, c'est sûr que la dernière, vous mettez, je pense, un peu sur la coiffe. Mais encore, parce que c'est bien de dire où on est, mais c'est bien un peu d'en dire plus. Ouais. Là, qu'est-ce que, par exemple, cette diapo vous dit ?
Un décor peint et sculpté.
Il y a effectivement un décor peint et sculpté, ouais. Donc un décor à la fois en 2 et en 3 dimensions, ok.
Inspiré de l'antique,
ouais.
Plutôt baroque.
Plutôt baroque, là on va déjà vers la date, la période, ok.
Très lourd, très chargé.
Très chargé. Oui, il y a de la matière, effectivement.
Il y a un plafond en arc de sable.
Ah oui, on n'a pas beaucoup parlé d'espace, effectivement. Hein. Il y a un plafond d'arc de cerf, c'est-à-dire qu'il est comment ce plafond ?
Voûté.
Voûté. Hein ? Oui. Et la voûte est peinte, effectivement.
C'est une grande galerie.
Ah, c'est une grande galerie. C'est important de le dire. Pour l'instant, on n'en avait pas parlé du tout. Hein. Et ça, c'est important, parce qu'un décor, c'est dans un espace. Hein. Et donc, cet espace, c'est effectivement une galerie. C'est quoi une galerie ?
Ouais,
grand espace, oui, en longueur, oui. Ouais.
Très vaste couloir.
Oui, une sorte de couloir, mais vaste, effectivement. Hein. Alors, quelle est quand même la différence entre un couloir, fut-il vaste, et une galerie ?
La galerie, il y a des fenêtres.
Il y a des fenêtres.
Oui, oh, il y a des couloirs avec des fenêtres.
Oui.
C'est plus large.
Généralement, un couloir est évidemment moins large, une galerie plus large. Et quelle est l'autre différence que l'on peut voir entre un couloir et une galerie ?
C'est aussi pour mettre en valeur des œuvres, par exemple.
Oui, mais encore.
Il peut accueillir du monde. Hein.
Oui.
On ne fait pas que passer. Attendre.
Voilà, c'est la grande différence entre un couloir et une galerie. Un couloir, c'est un lieu qui sert à passer, à relier des espaces. Un couloir, il peut être un peu décoré, mais enfin, un couloir, on y passe. Une galerie, on y reste, hein, effectivement. Hein. Une galerie, ce n'est pas un lieu qui est simplement un lieu de passage. Certes, c'est un lieu qui sert pour aller d'un lieu à un autre. Hein. Mais c'est aussi un lieu, j'allais dire, qui est un aboutissement, en quelque sorte. On va vers une galerie. Un couloir, on le traverse pour aller dans d'autres lieux. Hein. Le couloir est plus un lieu de passage qui relie qu'un lieu dans lequel on va et qui se suffit en soi, pourrait-on dire. Hein. Une galerie, c'est ça. Ok. Et genre, cette galerie en longueur, assez large, voûtée, cette galerie avec un décor assez abondant, cette galerie qui est ornée à la fois d'éléments en deux et en trois dimensions, de peinture et de sculpture, qu'est-ce que vous pourriez en dire d'autre encore ? Un décor antiquisant, vous disiez, un décor qui tire vers le baroque, ok. On passe une deuxième
très
photo.
Répétitif, on a toujours les mêmes.
Oui, quelque chose d'assez rythmé, alors. Oui.
C'est la même.
Une sorte de symétrie, quelque chose d'assez symétrique, d'assez rythmé. Totalement symétrique ou pas ?
Non, pas totalement.
Non, par exemple, qu'est-ce que vous remarquez ? Ça se voit peut-être mieux sur la première photo, d'ailleurs.
Il y a des fenêtres,
oui, c'est ça. D'un côté, il y a des portes, de l'autre, il y a des fenêtres. Ça veut dire quoi ? Oui, alors voilà, que d'un côté, on donne sur des appartements, et de l'autre ? Sur des jardins, sur l'extérieur. C'est secondaire, ça ?
Non.
C'est capital. Une galerie, c'est vraiment quelque chose qui est... Parce qu'un couloir, à la limite, vous devez aller dans une cour, etc. Mais une galerie, non. Une galerie, ça donne sur quelque chose de valorisant. Une galerie n'a pas donné, ou rarement, sur un cloaque, si vous voulez. Une galerie, elle compte pour ce qui est à l'intérieur, mais ce qui est à l'extérieur aussi. Donc le fait qu'il y ait des fenêtres qui donnent sur un extérieur qui soit, peut-être, on va le voir, j'allais dire, de qualité, ça compte dans les galeries, elle compte pour ce qu'il y a dehors aussi, ce sur quoi elle donne. OK. On y fait quoi dans la galerie ?
Là, on y mange.
On y danse, on y attend.
On papote.
On papote.
On est en longue galerie.
On fait quoi encore ?
On admire les œuvres.
On admire les œuvres, absolument. Galerie, c'est un lieu où il y a des œuvres, elles sont faites pour être admirées. Dans la galerie, on place des œuvres qui sont là pour être vues et admirées. Des œuvres uniquement visuelles.
Peut-être
qu'il y a la musique. De la musique. La galerie est un lieu où on fait de la musique. Donc la galerie, c'est aussi un lieu pour ça. Donc c'est pour des œuvres visuelles, mais pas que. Pas que. Ça vous inspire quoi ?
Ça fait penser à une frise.
C'est quoi ce que je vous montre là ?
C'est
voilà.
C'est en face des fenêtres.
Voilà, exactement. C'est en effet le déroulé, l'élévation d'un mur de galerie, celui qui est en face des fenêtres. Donc là, c'est celui qui a la porte qui donne sur les appartements.
On parlait tout à l'heure.
Oui. Oui, là on voit bien effectivement le côté très rythmé, très ordonné de ça. Et qu'est-ce que vous voyez encore qui vient peut-être un peu confirmer des choses que vous avez déjà dites ?
Les statues.
Il y a effectivement de la statuaire. Donc, certes, c'est très... Statuaire antique, vous disiez, oui. Ce qui veut dire quoi ?
Du décor architecturé aussi, il y a des pilastres, des...
Oui. Et justement, ce décor architecturé, tiens, parlons-en aussi, il est fait comment ?
En trompe-l'œil.
Alors, il y a du trompe-l'œil.
Oui, ou du stuc.
Et du stuc. Il y a du trompe-l'œil et du stuc. C'est-à-dire qu'il y a des éléments qui sont effectivement peints, mais qui sont plats, hein, donc c'est du trompe-l'œil. Mais il y a également du... C'est quoi le stuc ? Oui, c'est du plâtre, comme ça.
Non, c'est moulé.
Oui, alors c'est composé de quoi le stuc ?
Ça imite le marbre.
Voilà, le stuc, ça imite le marbre, effectivement. Et pourquoi d'ailleurs ça l'imite ?
C'est moins cher.
Alors, c'est moins cher, mais pourquoi est-ce que ça imite si bien le marbre ?
C'est de la poudre de marbre.
En fait, si vous voulez, quand un marbrier taillait du marbre, on ne jetait pas le reste du marbre en prenant une pelle. On gardait la poudre de marbre que l'on pilait et ça permettait de faire du stuc. Le stuc, c'est un plâtre plus, si j'ose dire, hein, de qualité, entre guillemets. Hein. Donc le stuc, c'est vraiment un type de matériau qui permet de faire des décors de qualité qui sont pas en marbre mais qui, quelque part, limitent. Hein.
Mais qui peut être sculpté.
Absolument. C'est l'intérêt aussi du stuc. C'est que le stuc, ça peut être moulé, comme du plâtre, mais ça peut être sculpté. C'est-à-dire qu'on les stucateurs hein, étaient des gens qui étaient capables de vous faire des reliefs, comme ça, un peu comme on fait avec la terre, hein, avec du stuc. Donc effectivement, l'intérêt du stuc, c'est qu'il est, il est sculptable et moulable. Hein. Très bien. Les sculptures, vous en avez parlé un peu, vous pouvez en dire deux mots, peut-être ? Donc vous avez dit qu'il s'agit de statues, quel genre de statues ?
Antiques,
oui. Ça veut dire quoi ? Ça vous suggère quoi ?
Soit ce sont des personnages, ce sont
des...
Oui. Des originaux ou des copies ?
Oui, oui. Et ces personnages, c'est quel genre de personnages, à votre avis ? Sans les détailler, les tous. En l'occurrence, oui, je crois pas qu'il y ait de personnages féminins, là, en l'occurrence. Oui, ils sont sans doute des divinités, voilà. Hein. Et donc, quand vous disiez que c'était des originaux et des copies, vous pouvez préciser un peu ?
C'est des copies de statues anciennes ?
Oui.
Ou des originaux ?
Ou des originaux ?
Qui ont été fabriqués à l'antique.
Voilà. Oui. Alors, je dirais même qu'il y a un peu deux types de copies. Hein. Vous savez que... On a déjà fait un atelier sur la sculpture romaine ou pas, je ne sais plus.
Oui.
Il me semble. Hein. Je ne sais plus ce que je fais. Donc, à l'époque romaine, on a beaucoup copié en marbre des statues grecques, antiques donc aussi, mais en bronze. Et puis à la Renaissance, on a beaucoup copié aussi des statues antiques en marbre, à nouveau en marbre, vous voyez ce que je veux dire. Donc là, on a sans doute pour la plupart des statues antiques, romaines, qui, pour beaucoup d'entre elles, sans doute copient des originaux grecs en marbre, en bronze. On peut même penser que certains des antiques que vous avez là, découverts un peu mutilés, ont été complétés à certaines périodes. On leur a ajouté une tête, un bras, etc., qu'ils avaient perdu et qu'on n'a pas retrouvé quand elles ont été découvertes et qui ont été complétées alors. On a donc là une sorte de collection de sculptures antiques. Pourquoi est-ce que dans cette galerie, on a comme ça, mis dans des niches, ces sculptures ? Pour faire joli, pardon ?
Ça fait chic.
Ça fait chic. Ça fait chic parce que c'est beau, d'abord, et ça fait chic pourquoi aussi ?
Ça fait riche,
et plus que ça.
Cultivé.
Ça fait cultiver. Voilà, ça fait riche et cultivé. C'est-à-dire que on sent bien dès qu'on entre là que ben, il faut que ce soit beau. Hein. La sculpture antique, c'est beau, c'est du marbre. Hein. On voit aussi que c'est pas un mendiant qui habite là. On le comprend très vite. Et bien évidemment, ça fait cultiver parce qu'on a là, vous l'avez dit, hein, toute une série de divinités qui évoquent l'Olympe. Ça veut donc dire qu'il faut connaître tout ça. C'est pas donné à tout le monde. Hein. Donc on voit tout de suite que l'étalage de ces sculptures est là pour différentes raisons, pour montrer le statut en fait de la personne qui a fait réaliser ça.
Il y a quelques peintures oui. qui brise la monotonie.
Oui, effectivement. Effectivement, notamment une juste au-dessus de la porte.
Et au-dessus des niches.
Et au-dessus des niches aussi, absolument.
Mais il y a des soubassements qui sont un peu bizarres.
Ils sont un peu plats.
Oui, les soubassements sont plats, peut-être pour nous faire respirer un peu par rapport à tout le reste de la salle, qui au contraire est assez décoré, mais c'est vrai. Alors, le centre de robuste, que là, la photographie d'une photographie qui permet une espèce de déroulé un peu radical, si vous voulez, en fait, c'est une image qu'on ne peut pas vraiment avoir, parce que quand on est dans la salle, ça c'est la photographie a été faite par toute une série de tranches de photographies mises côte à côte, vous voyez ce que je veux dire. Donc en fait, c'est très pratique, parce que ça montre l'élévation de ce côté-là de la galerie, mais c'est le genre de vision que vous ne pouvez pas avoir quand vous y êtes, parce que c'est pas visible optiquement, si vous voulez. Hein. Voilà, donc ce soubassement est d'autant plus, nu que cet assemblage de photos nous le rendu, si vous voulez. Si c'est clair ce que je dis.
Et il était nu d'origine ?
Il était comme ça.
Voilà,
c'était
il
comme
pas
ça.
Des choses
Non, c'était effectivement comme ça. Voilà. Dernière diapo, qui peut-être achèvera de nous faire entrer. Pardon ?
L'Italie, ça fait penser à l'Italie.
Alors, ça fait penser à l'Italie. Ben, je crois que vous pensez bien. Hein. On va lever le suspense. On est effectivement en Italie.
Hein. C'est le jardin qu'on voit de la galerie
Ça, effectivement, c'est le jardin qu'on voit de la galerie. Absolument. Donc, vous voyez que ce passage intérieur-extérieur est important. Hein. Souvent, ces grands décors, pas forcément toujours, mais souvent, en tout cas, c'est le cas en général dans les galeries, ces grands décors, ils se conjuguent avec l'extérieur. Il n'y a pas une salle qui est belle, puis dehors, on s'en fiche. Non, la salle, elle se conjugue, elle dialogue avec l'extérieur. Ça, c'est vraiment très important. Hein. Elle est où, là, la galerie ?
Au premier étage,
effectivement. Hein. Donc, elle n'est pas au rez-de-chaussée, elle n'est pas au deuxième, elle est au premier. Et pourquoi, d'ailleurs ?
C'est l'étage noble.
Voilà, c'est l'étage noble, hein, le premier étage, c'est ce qu'on appelle le bel étage. Même les Allemands utilisent cette expression pour parler du premier étage, hein, le bel étage, une expression française adoptée en Allemagne. Vraiment, le premier étage, c'est l'étage noble. Le rez-de-chaussée, c'est un peu humide, il y a des animaux, des rats, des trucs comme ça. Au deuxième étage, on est sous les toits, il fait chaud quand il fait chaud, il fait froid quand il fait froid. Enfin, au milieu, c'est l'idéal, c'est suffisamment haut pour être élevé, suffisamment bas pour être encore accessible. Par exemple, le premier étage, c'est le niveau principal, c'est le bel étage, c'est ton premier étage qui est galerie. Très bien. Alors, on a dégrossi un petit peu le sujet, j'aimerais qu'on aille un petit peu plus loin. Comme je vous l'ai dit, on va détailler la plus grande partie des décors peints de cette galerie, et ça va nous permettre de comprendre comment tout ça fonctionne. Mais avant de regarder un à un les peintures qui ornent cette salle, et les regarder à peu près toutes, je voudrais quand même à nouveau vous montrer quelques diapositives pour nous faire pénétrer un peu plus avant dans le monde, l'ambiance de ces peintures. On va donc regarder là aussi deux ou trois diapos. Pour l'instant, je vous les montre, simplement pour qu'on pénètre dedans. Je suis désolé, c'est pas bon du tout. Pas bon du tout. Ça va vraiment falloir faire quelque chose que là. Enfin, vous voyez, mais c'est pas du tout les couleurs. Enfin, il n'y a pas de couleur. Hein. Vraiment compliqué. Normalement, ça, c'est gris, vous voyez. Non, mais c'est le problème de la luminosité que vous disiez, quoi. Seulement, vous avez des effets de couleurs magnifiques, là. Non, c'est... Bref. Voilà une autre diapo. C'est un peu moins cata, si j'ose dire. Bon, encore une fois, on reverra tout ça en détail. Hein. Mais je vous montre ces trois diapos pour que on commence à rentrer dans, je dirais, l'esthétique de ce plafond. Et donc, on va revenir en arrière, à nouveau, pour... Voilà. Alors, quand je vous montre ça, c'est donc une vue de la voûte de cette galerie, hein, vous avez compris. Qu'est-ce que vous auriez à dire, même si c'est vraiment pas très bon, hein. Chargé, oui. C'est chargé, structuré. Moi, plus que chargé, le mot chargé, il me plaît moyennement, parce que je trouve qu'il est un peu, comment vous dire... Pardon ?
Péjoratif.
Oui, un peu péjoratif, c'est ça. Moi, je dirais que c'est un décor couvent. Alors après, c'est chargé, ou on trouve ça chargé ou pas. Mais c'est couvent. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un décor partout. Quoi. Il n'y a pas un endroit de la voûte qui ne soit pas décor. Alors, il y a des blancheurs qui, ici, permettent pas de le voir. Mais tout est couvert de décors. stuc ou peinture, hein, tout est donc couvert. Bien. Vous avez noté, évidemment, que c'était très structuré. Hein, c'est-à-dire que... Pardon, très symétrique. Ouais. Ouais. Oui, finalement, on retrouve, d'une certaine manière, dans la voûte, cette idée de la structuration qu'on avait sur les parois de la pièce. Oui. Cette structuration, vous pouvez la définir. Est-ce que vous voulez que je passe à la photo suivante? Qui permet, enfin, je sais pas, regardez déjà ça, mais peut-être la photo suivante permettra de compléter cette question de la structuration de ces décors de la voûte.
Ce qui est curieux, ce sont ces tableaux qui sont plaqués sur les peintures.
Oui, vous pensez
les
à quoi
cadres,
vous,
cadres, vous, les cadres du
voilà,
cadre.
Vous pensez à ce qu'il y a au milieu, en haut, au milieu, en bas et sur les côtés. Mmh. Ouais. C'est des vrais tableaux?
Non.
Voilà. Non, effectivement, c'est des faux cadres en trompe-l'œil qui sont plaqués comme pour faire tableau posé sur la voûte.
Peut-être ouais. Pour attirer l'attention.
Quelque part, oui. C'est pour effectivement mettre en avant certains thèmes. Et puis pour participer à cette structure dont vous avez parlé, absolument. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui participe à la structure?
C'est des formes très géométriques.
Oui.
Et identiques. On a un grand rectangle avec deux rectangles plutôt verticaux.
Oui.
Des petits rectangles plus petits.
Oui.
Ainsi de suite. Et par contre, allégé par quatre médaillons.
Oui. Oui. Oui.
Donc vraiment des formes très, très géométriques.
Oui. Alors effectivement, c'est très géométrique. Parce que quand on regarde tout de suite, on dit, oh là, il y en a partout, c'est un peu le fourbi, ça. Mais quand on entre dedans, on voit effectivement que c'est en fait très structuré. Structuré, vous l'avez dit, de manière très géométrique. Il y a un grand élément central rectangulaire, accosté de deux autres compositions rectangulaires, mais cette fois verticales. Il y a ces fameux faux cadres, enfin, faux tableaux encadrés, plus exactement, aux deux extrémités et au milieu des deux côtés. Et puis, il y a des compositions en frise tout autour du plafond, structurées elles-mêmes, notamment par des médaillons. Alors, il y en a 8 complets et il y en a 4 en partie cachés par les faux cadres.
Ouais.
OK ? Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore qui vient contribuer à la structuration de l'ensemble ? On les voit, hélas, pas très bien. C'est pourtant une des choses les plus fortes de cette composition.
Et il y a des écoinçons.
Oui, il y a des écoinçons.
Alors, il y a effectivement des écoinçons.
Mmh, mmh. Avec des petits
aux 4 ans, oui. Et ces écoinçons, ils donnent sur quoi? Est-ce que vous devinez le fond?
Le ciel.
Oui, voilà. C'est comme si c'était des écoinçons troués, si j'ose dire. Donnant sur le ciel. Tout le reste est
fermé.
Voilà, fermé. Alors que les écoinçons sont ouverts sur le ciel, et effectivement, on voit des petits qui sont là dans les écoinçons, souvent sur le ciel, comme s'il y avait des espèces de respiration aux angles, si vous voulez. Ouais. Et puis, peut-être je vous passe la photo suivante qui est moins catastrophique que celle-là. On retrouve là, hein, voilà.
Il y a des statues.
Voilà, c'est même pas des bas-reliefs, c'est des trompe-l'œil, c'est de la peinture, mais en trompe-l'œil. Hein. Donc ces figures que vous voyez là sont en fait, hein, ces figures que vous voyez là sont des figures en trompe-l'œil. C'est peint, c'est plat, mais ça fait relief.
Et c'est ce qu'il y a autour du médaillon aussi.
Ah, qu'est-ce qu'il y a autour des médaillons, justement?
Les médaillons arrondis, là.
Ça. Alors, les médaillons, ou les médaillons cachés, hein, on a vu qu'il y avait des médaillons, il y avait quatre médaillons complets, mais il y a toute une série de médaillons incomplets cachés par les faux cadres, des faux tableaux encadrés. Hein. On en voit effectivement deux. Ça, c'est du trompe-l'œil aussi. Vous avez raison. Parce que ce qu'on voit là, hein, ou là, c'est donc des faux médaillons en faux relief, derrière d'ailleurs des tableaux qui sont faux aussi. Enfin, des cadres de tableaux qui sont tout est faux.
Hein. Qui veut imiter certainement une pierre.
Les médaillons, vous voulez dire?
Oui.
Peut-être. Une pierre ou bien autre chose.
Alors, du bronze.
Voilà. Peut-être aussi. Ouais. Ah, ça dépend de la patine du bronze. Ouais. Et puis, il y a encore autre chose. Par parenthèse, ces statues dont vous m'avez parlé, qui sont là, sont souvent d'ailleurs de quel type?
Carré.
Elles ont notamment, regardez celui à droite. Je suis désolé, les détails sont très mauvais, hein, mais bon, voilà. Quand même, vous voyez là, la statue qui est là, elle a quelque chose de peut-être un peu particulier. On voit bien quelque chose, quand même. Pardon ? Une ? Alors, oui, c'est un personnage nu avec une cape. D'ailleurs, celui de gauche, idem. Mais ces personnages, ces statues, sont des statues un peu particulières.
Ils n'ont pas de jambes.
Voilà, ils n'ont pas de jambes. C'est-à-dire qu'on voit le buste avec la tête, les bras, mais le buste se termine en fourreau tout droit.
C'est caché par les autres.
Alors, les autres, vous quand même, vous me disiez ce monde s'agit, parce que vous n'en avez pas parlé pour l'instant. Il y a donc quelque chose qui est caché en bas. On appelle ça comment ? Ces statues qui ont un bas, qui est une sorte de fourreau, hein, de pilier, si vous voulez, et qui commence qu'à partir du buste. Alors, une cariatide, c'est quoi ? Voilà. Alors, le mot cariatide est un mot un peu général qui signale une figure qui tient. Hein, voilà. Ça, c'est des... Alors, on pourrait dire que ce sont des cariatides parce qu'ils soutiennent, même si c'est des faux. Hein. Enfin, mais c'est des trompe-l'œil, ils soutiennent. Est-ce qu'on pourrait dire que ce sont des fausses cariatides ?
Peut-être.
Peut-être.
Ah oui, mais non, les vraies cariatides, elles ont des pieds.
Alors, pas forcément. Une cariatide peut être une figure plus ou moins, humaine, on va dire. Mais il y a surtout quelque chose qui change, en fait, qui fait que ça ne peut pas être des cariatides. Une fois, ce sont des trompe-l'œil.
Les bras ?
Pardon ?
Les bras qui sont...
Alors, ils ont effectivement des bras qui tiennent, donc on pourrait dire... Ce sont des, entre guillemets, cariatides.
Ce sont des hommes.
Ah voilà. Sauf que les cariatides sont des soutiens femelles, si j'ose dire. Là, ce ne sont pas vraiment des dames.
Non.
Comment est-ce qu'on appelle une cariatide mâle ? Ah, pensez pas que vous viendrez ici pour qu'on apprenne ce que c'est qu'une cariatide mâle. Eh bien, si. Ça s'appelle un atlante.
Voilà.
Donc ce sont des atlantes, hein, ce sont des atlantes. Alors encore une fois, ce sont des atlantes en trompe-l'œil, mais ce sont des atlantes. Bien. Et ces atlantes ont donc le haut du corps réel, si j'ose dire, hein, assez musclé d'ailleurs, hein, faut dire que plus qu'ils tiennent, vaut mieux. Et puis le bas du corps est donc, encore une fois, une sorte de pilier. Quelquefois, on voit des vraies statues comme ça. Dans le parc de Versailles, par exemple, hein, il y a toute une série de ces statues-là, hein, qui ont le bas fourreau, si j'ose dire, enfin pilier, et le dessus, corps normal. Ça s'appelle comment, ça ? Ces statues qui peuvent être parfois des cariatides ou des atlantes, mais qui ont un bas pilier et un haut corps humain normal. Ça s'appelle des thermes. Les thermes, comme des thermes où on se baigne, hein, voilà. C'est des. Voilà, on appelle ça de cette manière. Bien. Donc on a ces atlantes en forme de thermes, pas tous, hein, il y en a qui sont des statues complètes, hein, mais d'autres sont des thermes qui, en trompe-l'œil, soutiennent quelque part la voûte. Et puis il y a encore autre chose, encore une fois, que vous avez signalé rapidement durant.
Oui, devant.
Voilà, devant, il se passe des choses. Vous n'avez pas parlé du tout de cela. Hein.
C'est pareil, c'est des statues en trompe-l'œil.
Ah, est-ce que ce sont des statues en trompe-l'œil ?
Non, c'est des peintures.
Non, voilà. Là, alors, vous voyez très mal parce que c'est hyper mauvais. Hein. Mais autant vos statues, là, vos atlantes en trompe-l'œil sont tout à fait blancs, couleur pierre, couleur stuc, tout ce que vous voulez, minéral. On voit bien que c'est des faux décors. Ça imite le décor. Autant les personnages nus devant, eux, ils sont en chair et en os, si j'ose dire. Alors évidemment, ce sont des trompe-l'œil comme tout le reste, hein, mais eux ont l'air d'être vrais. Vous voyez ce que je veux dire, hein. C'est-à-dire, vous avez en fait plein d'illusions là-dedans. Hein. Vous avez des personnages qui sont sur le bord, là, comme s'ils étaient au bord de la corniche, hein, assis, tout nus, on ne sait pas bien ce qu'ils font là, enfin, ils sont là. Vous avez des tableaux qui sont en fait des faux tableaux avec des faux cadres. Vous avez des faux médaillons derrière. Et vous avez des fausses cariatides et à l'angle des faux... Enfin, des faux atlantes, pardon. Et à l'angle des faux ciels avec des poutis, quoi. Donc, vous voyez, il y a une espèce de côté gigogne du trompe-l'œil. Vous voyez ce que je veux dire par là ? Voilà.
Terme, ça s'écrit
T-E-R-M-E. T-H. Ah, je crois qu'il y a un H, oui, il me semble. Je me rappelle jamais à chaque fois, il faut que je vérifie, mais je crois. Voilà. Donc, effectivement, on a là un décor à la fois très, très, très dense, hein, et très structuré, mais qui finalement peut quand même se résumer. On vient de le faire. Je vous repasse ici une vue de la partie centrale. Hein. Donc, un décor extrêmement dense, mais assez structuré, qui peut finalement assez bien se résumer à toute une série de choses, hein, qui permet vraiment de comprendre comment une plafond s'organise. Ce genre de plafond, et je vais peut-être vous repasser une vision générale. Voilà. Qu'est-ce que c'est mauvais, c'est épouvantable. Ça m'énerve. ce genre de composition, vous placeriez ça quand? À votre avis, ça a été réalisé quand? Vous placeriez ça où? On a parlé d'Italie, mais peut-être qu'on peut aller plus loin. Est-ce que vous auriez une idée aussi des sources d'inspiration qui ont pu permettre de réaliser ce genre de décor? D'abord, on commence par un côté, la date. Pas la date précise, mais à peu près à quel moment? 18e. 18e?
Non,
17. 17? 17,
oui.
Pardon?
En Italie, ça peut être encore un peu plus tôt. Oui.
Okay, bah on verra tout à l'heure. Donc je vois qu'il y a un petit flottement entre 17 et 18e.
Et éventuellement 16e.
Ouais, et, ah, éventuellement 16e. Ah, avec les Italiens, hein. Effectivement, en Italie, quelquefois, on a des surprises. Hein. Donc un décor éventuellement assez tôt, ok. Ce genre de décor, encore une fois, vous verriez ça où, à quel endroit est-ce que vous voyez ça?
Il n'y a pas de motif religieux.
Dans une ville, hein?
Ouais. Enfin, on va voir, en regardant de plus près. Mais ça, en tout cas, ça n'apparaît pas de manière flagrante. Vous avez raison, hein. A priori, hein. En tout cas, pas de motif religieux, on va dire chrétien.
Chrétien, enfin, peut-être plutôt Ancien Testament.
Plutôt Ancien Testament, ouais.
Et mythologique.
Ou mythologique. De toute façon, on va regarder ça de plus près dans un instant, parce que vous allez me dire tout ce qu'il y a là-dessus, je vous préviens. Ah oui, ici, vous savez, c'est tout ou rien. Hein. Est-ce que certains d'entre vous, sans forcément dire de quoi il s'agit, hein, ont reconnu de quoi il s'agissait?
Non.
Mais alors, est-ce que si vous n'avez pas reconnu, ou est-ce que peut-être que vous ne connaissez pas ce décor, qui encore une fois est fondamental, hein, mais qu'on connaît très peu finalement, est-ce que ça vous fait penser à d'autres grands décors peints européens de l'époque, et peut-être même italiens, parce que vous avez dit qu'on était en Italie? La chapelle Sixtine, effectivement. Ça fait vraiment penser à la chapelle Sixtine. Alors, c'est plus petit.
Pas,
hein.
Pas les représentations.
Pardon ?
Mais pas les représentations. Pas les...
Qu'est-ce qui vous fait penser à la chapelle Sixtine ?
La composition.
La composition. C'est-à-dire le côté décor très couvrant, mais structuré. Ça fait beaucoup penser à la chapelle Sixtine. Hein. Alors, évidemment, pas les représentations. Hein. Mais encore que, il n'y a pas des éléments...
Encore que le goût des... héros,
oui.
Très musclés.
Oui. Ça, effectivement.
Et
y en a. Hein. Rappelez-vous, par exemple, le deuxième détail. Hein. Là, voilà, vous avez des figures, des personnages souvent masculins, mais pas que. Hein. Charpentés, on n'a pas des petits, hein, des petits minus. Hein, c'est...
Et ça, on le trouve aussi. Là.
Ça, c'est très Sixtine, effectivement. Hein. Donc, le côté très couvrant, le côté décor, malgré tout, très structuré, espèce d'exaltation de la figure humaine charpentée, hein, à l'antique. Hein, ouais. Et puis, est-ce qu'il n'y a pas non plus là-dedans, par exemple, quelque chose qui est presque une citation de la chapelle Sixtine? Quelque chose vraiment qui est une sorte d'héritage direct, en plus de tout ce que vous venez de dire. Pardon ?
Des anges ?
Oui. Oh, il y a bien des anges, hein, ça s'appelle Sixtine, ça c'est sûr, mais...
Les couleurs.
Oui, c'est vrai. Ne serait-ce que la technique, d'ailleurs, elle-même, hein, c'est de la fresque. Donc, évidemment, ça, même si là, les couleurs, elles sont un peu affadies par le... Mais vous avez raison, les couleurs et la technique font que... Et le bleu, effectivement, font qu'on est un peu dans le même domaine, ouais. Puis il y a vraiment... Pardon.
Il y a des trompe-l'œil, la chapelle Sixtine.
Ah oui.
Est-ce que ce genre ferait que ça se rapproche pas?
Ah oui, il est vrai qu'à la chapelle Sixtine, vous avez des effets de trompe-l'œil qui ne sont pas forcément identiques, hein, mais effectivement, l'utilisation de trompe-l'œil, enfin de l'idée du trompe-l'œil, est une chose qui se conjugue aussi bien ici qu'à la chapelle Sixtine, qui crée une sorte de lien entre les deux.
Je vois les personnages qui volent dans le ciel, là, au-dessus du tableau.
Oui, ça vous y fait penser aussi.
Ça crée une architecture aussi.
Oui, décidément, le côté structuré, cet espace architecture peinte, pose en trompe-l'œil, effectivement, c'est vrai, c'est quelque chose que l'on voit à Sixtine et que l'on retrouve là. Décidément, la structuration de cette voûte, qui est une voûte tout bête, hein, lisse, si vous voulez, hein, la structuration avec une fausse architecture, ça fait beaucoup penser à la chapelle Sixtine.
C'est aussi la couleur, parce que... Il n'y a pas d'ombre forte, il n'y a pas de... Ça, c'est de la couleur claire.
Oui, vous voulez... Oui, effectivement, il n'y a pas d'idée de contraste, on n'est pas dans le clair-obscur, c'est pas Caravage.
Ils disparaissent dans le noir.
Oui. Oui, puis il y a moi, vraiment, encore une fois, j'insiste, hein, un détail que je trouve très flagrant par rapport à chez les Sixtines.
La vue de dessous.
Pardon ?
Les vues de dessous.
Oui, ce qu'on appelle le soto in su, le fait qu'on voit, ça c'est le côté trompe-l'œil. Hein.
Il n'y a que des nus.
Alors, oui, mais justement par rapport à ces nus, qu'est-ce que vous voyez qui est
torsions,
un...
Les...
Oui.
Toutes ces... Les anatomies.
Oui.
Très manier.
Vous brûlez.
C'est-à-dire que le personnage de droite, on dirait vraiment un personnage de Michel-Ange.
Ah oui. Alors c'est toujours ce côté effectivement musculeux, tordu, oui, torsionné des figures de Michel-Ange. Mais justement, ça vous rappelle rien à la Sixtine?
Ça peut être les galeries qui lui-même.
Non, à la Sixtine même. Enfin, le plafond lui-même.
Un petit coup de dent.
Pardon?
Adam.
Oui, notamment. Mais bon, on va y revenir tout à l'heure. Vous allez voir pourquoi. Hein, parce que, oui, il faut quand même qu'on avance. Hein, on a toute la voûte à se taper. Quand même. Dernier point avant d'aller plus loin. Donc, OK, la Sixtine, Michel-Ange, on voit là qu'il y a une parenté, avec un élément autour duquel on a tournicoté sans le voir vraiment, mais vous avez quand même vu l'essentiel. Hein, c'est du trompe-l'œil, c'est structuré, c'est très couvrant. Il y a cette exaltation du corps musculeux à l'antique qui envahit l'espace. OK, très bien. Les couleurs, la technique, tout ça s'en fait partie, c'est parfait. Est-ce qu'il y a d'autres décors ou un autre peintre? Bon, la Sixtine, c'est Michel-Ange, hein, on sait tous. Est-ce qu'il y a d'autres décors en Italie, peut-être, enfin voilà, en Italie, qui peut-être ont pu inspirer, par exemple, ce genre de choses?
Il n'y a pas Raphaël.
Raphaël, absolument. Oui. Oui. Qu'on appelle comment ces fameuses chambres? Les chambres où d'abord?
Au Vatican.
On appelle ça les stanze, les chambres. Les chambres du Vatican, effectivement, réalisées par Raphaël. Raphaël n'a fait que ça comme décor, justement, en Italie et à Rome, en l'occurrence. Parce qu'effectivement, vous avez raison, ça... Encore une fois, je suis désolé de la photo, c'est pas du tout la réalité, mais enfin bref, ça fait beaucoup, beaucoup penser à Raphaël. Alors, justement, peut-être pour aller un petit peu plus loin et pour justement nous mettre un peu sous les yeux ces modèles-là, je vous montre une portion du plafond de la Sixtine, hein, où vous voyez beaucoup de choses qu'on a dit, hein, c'est-à-dire cette architecture en trompe-l'œil qui fait que ce décor extrêmement couvrant est vraiment structuré par une architecture en trompe-l'œil. Hein. Alors, ce qu'on a vu dans le décor des intérieurs aujourd'hui, c'est pas la même chose, mais les artistes font jamais la même chose, mais c'est un peu la même idée. Ce que vous voyez aussi, c'est qu'il y a ici ces mêmes personnages nus. C'est ça la chose que j'aurais aimé vous faire dire tout à l'heure. Vous avez à l'acte 16 exactement le même genre de choses. C'est une figure, vous avez bien vu, hein, le côté torsionné, musculeux de ces personnages. Mais ce qu'on a vu dans les corps précédents, c'est quasi une citation de ce que vous avez là. C'est-à-dire, au-delà de ces espèces de tableaux qui en avoutent, ces fausses figures. Dans une sorte de trompe-l'œil, mais qui ont l'air vrais, vous voyez ce que je veux dire, qui soudain ponctuent hein, les tableaux en question. Donc effectivement, vous avez complètement raison, la Sixtine, elle transparaît, entre guillemets, à travers ce décor, même si c'est beaucoup plus ambitieux, beaucoup plus grand, etc. Et puis vous avez parlé de Raphaël, et vous avez raison. Voilà par exemple un autre décor fait à Rome par Raphaël, au-delà des stanze. C'est la villa Farnésine, la loggia de Psyché. Bon, là aussi, les couleurs. Bon, en tout cas, voilà la loggia de Psyché avec le plafond. Vous voyez que vous retrouvez le même genre de décor tout en longueur, avec une assemblée plus ou moins divine. Voilà d'ailleurs ici, une assemblée des dieux qui est le côté droit hein, de ce décor, hein, et qui fait beaucoup penser à ce qu'on a vu dans le décor qui nous intéresse aujourd'hui. Ok ? Donc, je crois qu'on a bien vu, effectivement, hein, qu'on est là, dans le décor qui nous intéresse aujourd'hui, devant une œuvre, un grand décor, très inspiré de Michel-Ange et de Raphaël, en Italie. Alors, la date est fluctuée un peu, 16, 17, 18e, voilà. En tout cas, après Michel-Ange et Raphaël, dont ce décor s'inspire. Hein. Bien. Alors, je vous propose maintenant de regarder d'un peu plus près ce décor, parce que c'est en le regardant qu'on va vraiment le comprendre mieux. Hein. Alors, je vous remontre une vue générale. Ah oui, puis alors là, oui. Bref, une vue générale du décor en question. On va commencer par s'intéresser à la partie centrale, qu'on a déjà un peu vue, qu'on va revoir, et dont j'aimerais que vous me disiez ce qu'elle représente. Quel est le sujet ?
Triomphe.
Un triomphe. Triomphe de qui ?
Un chat tiré par des félins.
Alors effectivement, il y a un char tiré par des félins, on va dire, ouais. Des félins rayés. Une espèce de petit tigre, pardon. Bacchus, qu'est-ce qui vous fait dire que c'est Bacchus ? Voilà. Effectivement. Il est couvert de pampres et il tient une sorte de grappe de raisin. Donc, on est manifestement devant un Bacchus. OK ? Donc, Bacchus sur un char. Et puis ?
Des chèvres.
Des chèvres. Qu'est-ce qu'elles font, les chèvres ?
Elles tirent un autre char.
Elles tirent un autre char sur lequel il y a une dame. Qui peut être qui ? Effectivement, mais laquelle ? Alors, avant de dire qui est cette dame, autour c'est qui ?
Il y a des satyres.
Il y a des satyres.
C'est comme une bacchanale, des satyres.
Des bacchantes. Voilà, c'est une bacchanale. À droite, vous reconnaissez ce gros monsieur qui est là.
Oui, ça me dit quelque chose.
Ah oui.
Bah, c'est Héraclès.
Non.
C'est Pan.
C'est pas Pan. Mais on n'est pas très loin. Quelqu'un qui est toujours dans le cortège de Bacchus. Que c'est le cortège de Bacchus que vous avez là. Hein, avec le triomphe de Bacchus et de sa copine. Vous allez trouver laquelle ?
Mais c'est son satyre, oui, il l'a élevé, là.
Eh oui.
Oui, il s'appelle.
Qui est toujours à moitié sous, et voilà, complètement ivre. On le met sur un âne, il faut le tenir, parce que voilà, c'est pas évident. Il s'appelle Silène.
Voilà.
Silène. On l'appelle parfois Papo Silène. Voilà, donc Silène. Donc vous avez le cortège de Bacchus, qu'on appelle le thias, hein, le thias bachique, c'est le cortège de Bacchus. Vous avez donc le cortège de Bacchus, ici, avec Silène, des ménades, des satyres, Pan est peut-être quelque part par là. Bref, c'est le thias bachique. avec au centre effectivement Bacchus, Dionysos autrement dit, et puis donc la jeune femme qui l'accompagne. Pas d'idée ? C'est sans doute, c'est Ariane. Ariane. Ah. Vous savez, celle qui a été abandonnée à Naxos par Aimée.
Ah,
ben
oui, c'est vrai qu'il a été
hein? Oui, et que Bacchus a récupéré, enfin Dionysos.
Ah, oui, oui.
Voilà. Hein? Eh bien, Ariane à Naxos, il y a même un opéra. Hein? C'est donc Ariane. Hein? Ariane et Bacchus, voilà. Donc au centre, on a ce triomphe de Bacchus avec sa copine, Ariane. Bien, regardons le tableau, on va dire, qui se trouve à gauche.
C'est
Silène
encore ?
Est-ce que c'est Silène ? Silène, il est comme ça ? Parce que si Silène, il n'a pas les jambes d'un bouc. Hein. Silène, c'est un personnage, entre guillemets, normal. Il est un peu épais, etc. Mais... C'est Pan. Ça, c'est le dieu Pan, qui a effectivement les jambes d'un bouc. Il n'a pas que ça, d'ailleurs, mais notamment. Donc, on a effectivement le dieu Pan, et puis c'est Diane. Vous avez effectivement, dans les cieux, Diane. Hein, Pan et Diane. Très bien. On regarde le tableau, entre guillemets, de droite.
Hermès.
Oui. Hermès, autrement dit Mercure. Il donne quelque chose, il donne une pomme. À qui ?
C'est la pomme. Ah, c'est les inconnus, c'est pas Jason ?
Alors, c'est pas Jason.
C'est un berger.
Oui, un berger.
La pomme d'or.
Et oui, il donne une pomme d'or à un berger. À quel berger et pourquoi ?
On l'a déjà vu en plus.
Ouais. On a vu des choses équivalentes.
Oui, oui, effectivement. Et c'est le nom qui ne me revient pas. Merci.
Je vous mets sur la voie. C'est le même nom que la capitale de la France.
Paris.
Et pourquoi est-ce qu'il donne une pomme à Paris ? Une pomme un peu spéciale. Une pomme d'or.
Une pomme d'or.
Et pourquoi il lui donne une pomme d'or ?
Pour qu'il puisse choisir
la plus belle des déesses. Donc il va. Quelles sont les déesses qu'il a devant, que bientôt Paris sera devant lui pour la choisir ? Choisir les plus belles.
Hera,
c'est-à-dire Junon, oui.
Aphrodite,
c'est-à-dire Vénus.
Et Athéna.
Athéna, c'est-à-dire Minerve. Voilà. Et il va choisir qui ?
Et Vénus.
Aphrodite, Vénus, voilà. Et vous savez que ça va poser un problème, parce qu'évidemment, Hera et Athéna vont être furieuses de ne pas avoir été choisies, et ça va poser un tas de problèmes, et déclencher notamment, entre autres choses, la guerre de Troie. Donc voilà, donc ce que vous avez là, c'est un thème fondamental. En gros, ce que vous avez là, c'est le déclenchement de la guerre de Troie, c'est-à-dire un des mythes fondateurs de l'Europe, quand même. La guerre de Troie, c'est un élément, alors qu'elle existe ou pas, ne le prenez pas. La guerre de Troie, c'est rien moins que un des mythes consubstantiels à l'histoire européenne. Sans Troie, on ne comprend rien à l'Europe, quoi. Ça n'existe pas. Hein. La guerre de Troie, c'est essentiel pour comprendre le substrat. Rome n'aurait pas existé sans la guerre de Troie, parce qu'elle ne serait pas partie de Troie, etc. Enfin, voilà. Donc la guerre de Troie, c'est capital. Donc on a là rien moins qu'un des actes fondateurs d'un événement essentiel pour, notre esprit de l'Europe, si vous voulez. Très bien.
On voit les petits personnages des coins, là. On dirait des griffons.
Oui, alors ce sont des... C'est quoi, précisément ? Alors, ce n'est pas tout à fait des griffons, parce qu'ils ont un corps d'animal. Un corps avec quoi ?
Des mamelles.
Des mamelles. Et puis ils ont une tête.
Ce sont des sphinx.
Des sphinx. Parce que des sphinx femelles sont des sphinx. Donc, qu'est-ce que ça vous dit d'ailleurs, ça ? Qu'est-ce que ça vous suggère ?
touche à toutes les antiquités.
Oui, et là, en l'occurrence, à l'Égypte. Parce que vous avez vu comment, ils ont, comment ces sphinges ont le némès et la barbe... C'est, non, c'est pas la barbe postiche, ça. Je croyais, mais non, c'est là. Il faut dire, avec tous ces trompe-l'œil, c'est la moulure du faux cadre derrière. Enfin, ils ont le némès. Hein. Bon. Super. On continue. On va regarder le compartiment en haut. Alors là, il est dans le mauvais sens. Je vais vous le retourner et vous montrer chacun des trois éléments de ce compartiment-là. Qu'est-ce que vous voyez là ?
Un monsieur et une madame.
Voilà, un monsieur et une madame. Qui est-ce ?
Alors, c'est musicien. C'est un musicien.
Ah, Hercule ? Alors, il est où Hercule ? Hercule joue de la musique. Évidemment, il a un petit tambour. Non, hein, Hercule joue.
Qu'est-ce que c'est que cette massue ?
Et puis elle tient une
sur. Elle s'appuie sur. C'est quoi ? Alors, effectivement, on a une dame qui s'appuie sur une grosse massue.
Oui.
Bon.
Et un monsieur qui joue de la musique.
Et un monsieur qui joue de la musique, du tambourin. Bien.
Peut-être échanger.
Oui, c'est
ça. Ils ont peut-être échangé les accessoires. Et la dame, elle a une massue, mais elle n'a pas que ça.
Elle n'a pas que ça.
La dame, elle a une massue.
Pas que ça. Elle s'appuie sur une... Bon, elle n'a pas grand-chose sur elle. Hein.
Non.
Elle a quelque chose de significatif.
Elle a une écharpe
de lion de Némé.
Exactement. Elle a sur elle la peau du lion de Némé. Hein. Regardez, on voit les pattes du lion entre ses seins et elle a la tête au-dessus de sa tête. Hein. Et le lion de Némé, c'est quoi ?
C'est un
des travaux d'Hercule. Alors, on en a retenu 12, il y en avait beaucoup plus. Hein. Mais un des 12 les plus célèbres d'Hercule, c'est Hercule qui tue le lion de Némé. Bien. Donc, cette dame, elle a la massue d'Hercule et la peau du lion de Némé d'Hercule. Pendant qu'Hercule, lui, joue du tambourin.
Donc, elle a...
Ça vous dit quoi ?
Elle a séduit Hercule.
Et voilà.
Elle lui a filé son instrument de musique qui ne sert pas à grand-chose.
C'est ça. Sinon, à faire de la musique.
Et elle a récupéré. De quoi s'habiller.
C'est ça. Exactement. Donc, cette scène, elle suggère quoi ?
La fourberie de la femme.
Oh ! Mais non. Voilà, les capacités de séduction féminine, sans doute.
Non, mais c'était
l'éducation des...
Voilà, c'est une sorte d'éducation d'Hercule, mais qu'est-ce que ça veut dire par derrière ? Parce que Hercule, c'est qui ?
C'est pas Circé,
pardon.
Non, Hercule, c'est un demi-dieu.
Hercule, c'est un demi-dieu qui incarne quoi ?
La force.
Hercule, c'est la force, il peut tout faire. Sauf que là...
C'est elle qui a les attributs de la force.
C'est-à-dire que là, les attributs de la force d'Hercule sont confisqués, pourrait-on dire, par la dame. Voilà. Donc ça, c'est une manière, en quelque sorte, de dompter la force. C'est-à-dire que elle arrive à dompter l'indomptable. Comment s'appelle cette femme qui séduit Hercule et qui réussit à faire ce que personne n'a réussi, c'est-à-dire à empêcher qu'il casse tout, quoi.
Une sorcière.
Oh non.
Une magicienne.
Ouf. Sans plus.
Une reine, une princesse.
Oh, une dame. Alors en fait, pour tout dire, il y en a eu plusieurs. Non. Il y en a eu plusieurs. La plus célèbre s'appelle Omphale. Hercule et Omphale. Hein? C'est quelque chose qui a été très souvent représenté dans la peinture, ça. Hein? Je pense à une peinture de Boucher qui représente Hercule et Omphale, célèbre, par exemple. Et puis, il y en a une autre qui s'appelle Iole, qui est également une femme qui a réussi à séduire Hercule. Voilà. Là, dans cette œuvre-là, c'est plutôt Iole et Hercule. Bien. Ensuite...
Un chat,
on voit rien, c'est tout.
Ouais,
un chat tiré par des chevaux, voilà.
On voit.
Alors, on a un chat, on a des chevaux, on les voit à peine, mais ils sont bien là. Hein, là.
On dirait un vieux monsieur écrasé.
Oui, qui évoque quoi ? Parce qu'il y a un vieux monsieur écrasé de sommeil, là.
Oui, c'est
un
chat d'Apollon.
Oui, ça fait penser au char d'Apollon.
Ah, mais là, on dirait qu'il y a un couple
là-bas.
Un couple.
On dirait qu'il lutte.
Bah, de fait, il y a un monsieur qui a l'air de lutter un peu contre une dame. C'est un peu l'inverse de ce qu'on vient de voir.
On dirait qu'elle le retient dans le char.
Oui, c'est ça. Elle tient à le retenir, si j'ose dire. Ce char, c'est le char de quoi ? Pas d'idée ? Mais un char de quel genre de personne, si j'ose dire ?
Un guerrier, non ?
C'est très allégorique tout ça. Hein. Vous avez parlé du soleil, d'accord.
Oui.
Mais est-ce qu'il y a. Vous avez parlé d'Apollon, hein, mais est-ce qu'il y a qu'Apollon qui a un char ?
Non, il y a.
Zeus, ouais. Sans plus. Parce qu'il n'y a qu'Apollon, le soleil, il fait jour toute la journée, quoi.
Non.
Toute la journée, il y a le soleil.
Non, il y a Séléné.
Ah, Séléné, mais c'est quoi Séléné ? C'est quand ?
C'est la nuit. C'est la nuit.
Bon. Alors, d'accord. Donc il y a la nuit et le jour. Mais c'est tout, il y a que la nuit et le jour. Donc je veux dire, tout d'un coup il fait jour, puis boum, après il fait nuit.
Il y a le crépuscule.
Ah, il y a le crépuscule. C'est plutôt le soir. Ah, et il y a
l'aurore.
Voilà. Eh bien, vous avez le char de l'aurore. D'ailleurs, vous voyez, le vieux monsieur, il dort encore, il n'a pas tardé à se lever. C'est le char de l'aurore. Je trouve qu'un jour, l'aurore s'était prise d'un berger qui s'appelle Céphale et elle a tenu à convoler avec lui. Ben, vous la voyez en train de faire cela. Elle est en train de se lier à Céphale. Vous avez donc Céphale et aurore sur son char. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on voit là ?
Un couple.
Sur un lit.
Avec un petit ange.
On est dans la mythologie gréco-romaine. Hein. Oui, plutôt un amour, on va dire. Hein. Voilà. Cette dame à corte, qui pourrait être qui ?
Il lui met sa chaussure, il enlève sa chaussure.
Je crois qu'il lui enlève plutôt.
Dans la main. Oui, alors qui c'est cette dame-là ? J'en sais rien. Comme elle n'est pas bien habillée. Elle n'est pas très habillée,
justement. Quelle est la femme dans l'hydrogie grecque qui est jamais, gréco-romaine, qui est jamais très habillée ?
Aphrodite Vénus.
Ah, voilà. Hein, donc là, on a effectivement Vénus. Et le monsieur. Là, c'est plus compliqué.
C'est un homme, un demi-dieu ?
C'est plutôt un mortel. Mais qui va s'unir à Vénus, il n'est pas le seul, d'ailleurs, on est le premier. Il s'appelle Anchise.
Ah oui.
Anchise, ça veut dire quelque chose ?
Oui, c'est le père d'Aîné.
Ça nous ramène encore du côté de la guerre de Troie, tout ça. Hein. Anchise, c'est le père d'Aîné. Et Aîné, il est important pourquoi ?
C'est le fondateur de Rome.
Oui. Aîné, c'est pas n'importe quoi. Hein. C'est, là, deuxièmement, ce qui fait que la guerre de Troie est importante. Donc vous avez Anchise. Le père d'Aîné et Vénus. D'ailleurs, Vénus, enfin, Anchise a eu de Vénus Aîné, justement. On regarde l'extrémité droite. Cinq heures, il y a encore une demi-heure, c'est ça. Voilà. Alors là, qu'est-ce que ça représente ?
Pan.
Vous êtes sûr ?
Non, parce qu'il n'a pas des.
Il n'a pas des jambes de bouc. C'est pas ça.
C'est un berger ?
Ouais, c'est un genre de berger. Un berger spécial. Hein. Regardez sa tête.
Qu'est-ce qu'elle a sa tête ? On dirait qu'il souffre.
Oui. Il souffre parce qu'il a une tête un peu spéciale.
Il a une couronne, non ?
Non.
De plantes ? C'est sur ses cheveux, ça ?
Ah, il a des cheveux.
Il est aveugle.
Il est au bord de l'eau. Ah, il n'est pas aveugle, mais...
C'est un cyclope.
C'est un cyclope. Il n'a qu'un œil. Il a cet œil-là. Il a un nez. Alors, il y a les orbites des yeux, mais qui n'existent pas. Il n'a qu'un œil sur le front.
Ah, mais c'est polyphème.
Polyphème. Polyphème. Donc, c'est le cyclope polyphème. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait quoi? Oui, mais comment? Il joue de la musique avec une syrinx. Bien. Et ce faisant, il charme la belle. La belle. Oui. Laïa. La belle Galatée. Vous avez Polyphème, amoureux de Galatée. En effet, elle trouve qu'il jouait très très bien la musique, Polyphème. Bon, Galatée est tout à fait. Amoureuse de sous charme, absolument, de lui dire, il a beau avoir une drôle de tête, il joue bien la musique. Et alors, juste au-dessus, il y a ça, qui représente.
Zeus.
Non,
il a une lyre.
Il a une lyre.
Ah, c'est une lyre, ouais.
Donc, c'est qui?
C'est Apollon.
C'est Apollon. Apollon avec.
Avec, ben, il a... Alors, une dame qui tient quoi dans sa main droite, là, là, un truc.
À l'autre...
Non, mais c'est sa main, c'est la main d'Apollon qui voilà. Tient la main.
Ouais. Non, effectivement, derrière Apollon qui tient la lyre, et devant, il y a quelqu'un. Ah, oui. C'est qui? Enfin, ça peut être qui?
Mais bien musclé pour une femme, je trouve. Hein.
Ben, c'est pas une femme.
Ah, ben oui, parce qu'il faut bien musclé. Ouais,
Apollon, il n'a pas eu vraiment beaucoup de femmes, hein. Ah bah non.
Un mythe qui s'effondre.
Oh. Ah oui, il a fondé des classiques. Hein. Ouais. Non, non. C'est pas... Ça... Voilà.
Bon, alors, qui c'est ce monsieur?
Qui c'est ce monsieur?
Bon, je persiste. Il a quelque chose sur sa main droite.
Oui. Sur sa main droite.
C'est tissu.
Ah oui, si, si, vous avez raison. Il tient, moi, je pense qu'il tient une fleur. Là, ça, ça va vous mettre sur la foi. J'avais pas vu ça.
Narcisse.
Alors, c'est pas Narcisse. Mais un autre nom d'un personnage, un petit copain d'Apollon, qui a donné également le nom d'une fleur.
Ce qui était ton...
Pardon ?
Hyacinthe.
Absolument, Hyacinthe. Apollon et Hyacinthus. Il y a un opéra aussi qui évoque ça. Hein. Vous connaissez peut-être l'histoire. Hein. Apollon, qui a eu de nombreux petits copains. On a eu un notamment qui s'appelle Hyacinthe. Le problème, c'est que Zéphyr, le dieu du vent, était aussi amoureux d'Hyacinthe. Mais voilà, Hyacinthe allait plutôt du côté d'Apollon que du côté de Zéphyr. Et Zéphyr, qui a été très jaloux de ça, un jour que Apollon et Hyacinthe jouaient au disque, et que Hyacinthe a lancé son disque, Zéphyr a fait un grand coup de vent, ce qui fait que le disque est revenu sur Hyacinthe et l'a tué en lui cassant le crâne. Et Apollon, très triste, a transformé Hyacinthe en fleur. Voilà. C'est l'histoire d'Apollon et Hyacinthe. Hein ? Ça vous embouche un coin. Hein ? Et là, de l'autre côté, qu'est-ce que l'on voit ? Oh là !
C'est encore un cyclope.
Encore un cyclope. C'est qui comme cyclope ? Encore Polyphème. Et qu'est-ce qu'il fait ?
Il lance un caillou,
un rocher.
Sur Ulysse et ses compagnons.
Ulysse et compagnons ? C'est vraiment Ulysse et ses compagnons ? Moi, je vois... Alors, on voit rien, hein, mais quand même. On voit combien de personnes ?
Deux personnes.
Ça, c'est une femme. Hein. Une femme et un garçon. Ulysse, elle n'avait pas trop de femmes avec lui.
C'est quelqu'un qui lui
la dame, ça peut être qui ?
Galatée. Galatée, mais sauf qu'elle quitte Polyphème.
Eh ben voilà. Il se trouve que Polyphème est tombé amoureux de Galatée. Galatée n'était pas insensible au charme de Polyphème. Enfin, il avait quand même une drôle de tête. Et un jour, elle rencontre le beau berger Assis. Pas Attis, hein, Assis. Alors bon, ça fonctionne entre Galatée et Assis. Sauf que Polyphème est jaloux. Donc il va décider, un jour qu'il surprend Galatée et Assis ensemble, de rage, il prend un rocher, pouf, il va écraser le pauvre Assis. Voilà. Et d'ailleurs, la légende veut que du sang qui coule du rocher, Galatée va faire une sorte de fleuve miraculeux, etc. Voilà. Donc là, c'est le moment où Polyphème va écraser Assis avec son rocher. Et alors, au-dessus, vous avez autre chose.
Un aigle.
Qui emporte un homme, un jeune homme. Alors c'est qui ça? Icare.
Prométhée.
Il
bouffe son nom.
Oh non.
Non, il est en train de manger. Jeune, bête.
C'est quoi ça? Ça vous dit rien? L'aigle, ça fait penser à qui?
À Zeus,
Jupiter. Hein? Donc, l'aigle.
Ben, c'est Jupiter qui s'est transformé. C'est une des métamorphoses de Jupiter pour séduire je sais pas qui.
Absolument. Parce que Jupiter s'intéressait beaucoup aux garçons, hein, comme Apollon d'ailleurs. Hein. Eh bien, un jour, Jupiter voit un beau berger, Ganymède, qui était là et qui garde son nom. Alors il y a plusieurs versions, parce que tout ça fait l'objet de quantité de versions. Hein. Mais il y a une version qui dit que soit il se change en aigle, puisque l'aigle est son attribut, soit il envoie son aigle pour aller chercher Ganymède, et Ganymède va donc faire monter Ganymède dans l'Olympe, comme ça il l'aura auprès de lui tout le temps. C'est pratique. Donc ça, c'est l'enlèvement de Ganymède, qui fait donc pendant à...
À l'autre,
mais l'autre c'est quoi? L'autre côté c'était quoi? Apollon et Hyacinthe. Je vous le... Voilà. Alors, on termine quasiment par l'autre côté. Là aussi je vous montre les trois éléments. Or ça c'est facile. Le plus facile.
C'est Zeus parce qu'il est...
Voilà, Zeus, Jupiter. Oui, qu'est-ce qui vous permet de le voir?
Il y a l'aigle
avec l'aigle, tient
avec
quoi?
Le foudre.
Hein. Vous savez qu'on dit le foudre et pas la foudre, hein, pour Jupiter. Hein. C'est-à-dire, c'est une espèce de chose pleine de flammes et de tonnerre. Hein. Ça, c'est le foudre. Donc, ça, c'est Jupiter avec son aigle, pas de problème.
Ah ben, et c'est sa femme, puisque.
Et c'est sa femme.
Il y a le pont derrière.
Voilà. Et c'est qui sa femme?
Héra ou Junon.
Ouais, parce que là, on est quand même après l'Antiquité romaine. Donc, voilà, c'est plutôt les noms. Mais donc là, pas de problème, là c'est fastoche, il y a les oiseaux, tout est bien. Ça, c'est pas non plus compliqué, parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de sujet. Ça représente quoi?
Ah, monsieur, madame...
Je suis désolé, c'est tellement mauvais que... Donc je vous admire d'arriver à avoir quelque chose.
C'est l'humidité
de l'eau. Il y a de l'eau, oui, en bas il y a de l'eau. On le dirait pas, normalement c'est bleu, mais vous voyez que le bleu...
Il y a plein de dauphins,
donc... Oui, pardon.
Des sirènes.
Pardon.
Pas des sirènes.
Les sirènes dans l'Antiquité, ce sont des oiseaux.
Ce sont des oiseaux.
Et pas des. Voilà. Donc, ce sont plutôt des tritons, hommes ou femmes. Et en fait, c'est une sorte de triomphe marin. Voilà. Il y a a priori pas de. En tout cas, dans ce que j'ai lu, il n'y a pas de sujet particulier. Un triomphe marin, on voit des tritons, des dauphins, des amours, que sais-je encore. Un triomphe marin. Très bien. Et à droite,
Diane.
Il y a la lune.
Elle réveille qui?
Un berger.
Alors, est-ce que c'est Actéon?
Non,
parce que vous savez qu'Actéon, vous savez ce qui lui est arrivé. Hein. Là, visiblement, ça se passe bien avec ce berger-là.
Oui.
Il se trouve qu'Actéon était chasseur. Et un jour, alors qu'il chasse, il va dans la forêt, paf, il tombe sur Diane en train de se baigner avec ses compagnes. Et Diane est très chaste. Hein. Diane était avec ses compagnes, parce que Diane, qui est la seule d'Apollon, elle s'intéresse beaucoup aux filles, et pas trop aux garçons. Hein. Donc Acton qui débarque, Diane a peut-être plus envie de voir Acton débarquer. Alors elle le change en cerf. Et les chiens d'Acton vont dévorer leur maître.
Ah,
ben non, mais là, une mythologie, c'est plein de choses. Mais quelquefois dans la vraie vie, il se passe des choses pas tellement plus longues.
Si. Mis à part la transformation qu'on a dû faire cette
histoire. Voilà, pardon. Voilà, oui, non, on ne peut pas se transformer en aigle, c'est ça qui est dommage. Ou en triton, ce serait pratique, ce serait bien. Bon, mais alors ça, revenons à nos moutons, si j'ose dire.
Alors, et c'est ce joli petit berger.
Pardon ?
Il faut pas le
faire. Il y a deux petits amours qui n'en pensent pas moins. Mais qu'est-ce qui se passe ? Il y a Diane, effectivement.
Elle l'endort ou elle le réveille ?
Ah, bonne question. À votre avis ?
C'est la nuit. Pardon ? L'endormi ?
Si c'est la nuit, elle l'endort.
Alors, exactement, elle l'endort. D'autant que Diane, c'est la lune. Hein.
Oui.
Donc, ouais, elle l'endort. Et pourquoi elle l'endort ? Parce que, manifestement, ce jeune homme est une sorte de berger. Il a son chien près de lui. Bon. Et visiblement, elle qui aime beaucoup les dames, là, tout d'un coup, elle aime bien ce garçon. Bon, pourquoi pas, hein. Et voilà. Donc, visiblement, ça se passe bien entre eux, quoi. Seulement, il y a un problème. Quel est le problème ? C'est un sacré problème.
Il n'est pas consentant.
Pardon ?
Il n'est pas consentant.
Ah, si. Si, il aime bien dire. Si, si, ça se passe bien entre eux. Mais il y a quand même un gros, gros problème. Lequel ?
Il dort.
Alors, il dort, mais il ne dort pas toujours. Il y a des jours où il ne dort pas. Ben, c'est qu'elle est immortelle, mais pas lui. Un berger n'est pas immortel. C'est-à-dire que lui, qu'est-ce qu'il est, année après année, voilà, alors qu'elle, tranquille, hein. D'ailleurs, elle est toujours dans le ciel, Diane, il n'y a pas de problème pour elle. Hein. Alors que nous, bon. Donc ça, c'est un gros problème. Eh bien, elle va trouver une solution. Elle va l'endormir éternellement. Comme ça, ça va lui permettre toutes les nuits, avec ses rayons, de caresser le corps d'Endymion, puisque c'est son nom.
Comment il s'appelle ?
Endymion, oui, c'est très bon. Je trouve que ça, Diane et Endymion, c'est magnifique. Elle endort Endymion pour pouvoir éternellement caresser de ses rayons le corps de son amant. C'est beau, quand même. Hein. Ah oui, c'est très bien. Alors, la mythologie est pleine de choses épouvantables, mais de choses très poétiques aussi. Alors, pour en terminer, regardons rapidement quelques-uns des médaillons. Ça, facile. Oui, l'enlèvement d'Europe. Hein. Hein, vous savez, Jupiter se transforme en taureau. Europe adorait les taureaux. Elle était zoophile, c'est comme ça. Hein. Et quand elle voit ce beau taureau qui est là, elle se met dessus. En fait, c'était Jupiter qui s'était transformé en taureau, et qui emmène la belle Europe. D'accord ? Et ça, ça, c'est très simple. C'est pas une scène précise, ça représente quoi ?
Un satyre.
Un satyre qui d'ailleurs ?
Pan.
Pan.
Il y a sa flûte.
Ouais, avec sa flûte, sa syrinx derrière. Et puis Pan avec qui ? C'est un amour. Ben, c'est l'amour, c'est Cupidon. Pan et l'amour. Voilà. Pan, il est toujours tout amoureux, hein. Et souvent, ça se voit, d'ailleurs. Et là, il est toujours équiphalique, Pan.
Ah, bah c'est Apollon, il a encore la lyre.
Ah, alors il a la lyre. Ça peut être Apollon, mais ça peut être quelqu'un d'autre.
Il y a une barbe.
Et Apollon, on en a guère. Mais ça peut être un poète inspiré. Qui charme les animaux tellement ils chantent bien. Pardon ?
Orphée.
Et en fait, qu'est-ce qui lui est arrivé ?
Je ne
vais pas vous chanter ça. Non. Il avait une copine, Orphée. Voilà. Et Eurydice. Et Eurydice, qu'est-ce qui va lui passer ? Qu'est-ce qui va lui arriver ? Elle va aux enfers. Parce que pourquoi ? Non, non, mais pourquoi elle meurt ? Elle va aux enfers parce qu'elle meurt. Elle meurt comment ? Parce qu'un jour, elle est tellement charmée par le chant d'Orphée qu'il y a un serpent qui arrive, qui la pique, elle ne l'a pas vu, elle meurt. Donc, elle va aux enfers. Et qu'est-ce qui se passe ? Orphée va la chercher. Seulement voilà, qu'est-ce qui va se passer ?
Il
ne
fallait pas qu'il se retourne.
Il fallait pas qu'il meure, parce qu'on lui avait bien dit, tu dois retourner avec elle sans te retourner jusqu'à la surface de la terre. Et Eurydice, en suivant son époux, va lui dire sur toute la montée jusqu'à derrière, enfin, pourquoi tu ne te retournes pas ? Ben, je retourne. Et lui, il va se retourner et il va perdre éternellement Eurydice. C'est le manque que vous voyez. Eurydice repart aux enfers et lui, voilà, et il fout de douleur. Voilà. Hein. Très bien. Et là, Alors là, c'est une scène haute qui n'est pas rigolote d'ailleurs. Mais...
On dirait une circoncision.
Oui, c'est un peu plus que ça. Oui, ça ressemble à ça, mais c'est pas ça. Pardon ? Oui, il est. Alors, en fait, c'est. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cet épisode, c'est l'épisode d'Apollon et Marsyas. Apollon, qui vous savez, le dieu musicien en même temps que le reste, un jour fait un concours de musique avec Marsyas. Marsyas est un satyre qui joue très bien la musique. Et il se trouve que Marsyas avait été couronné comme étant meilleur musicien qu'Apollon. Ça, Apollon n'a pas supporté, donc il a écorché Marsyas. Ce que vous voyez là. Il a attaché un arbre, il l'a écorché, il lui a enlevé sa peau. Pas très sympa, je trouve ça. Apollon, parfois, il est quand même un peu gonflé. Voilà. Et alors, ça.
C'est les écoinçons.
Les écoinçons, voilà, avec ces fameux petits amours. Okay. On termine, avant de voir la fin des événements, voilà un décor qui est à une des extrémités et qui représente ouais, une femme nue enchaînée sur un rocher. À gauche, il se passe quelque chose.
Un dragon
horrible
qui doit venir la manger.
Seulement voilà.
Sur Pégase.
Oui, c'est qui ?
C'est Méduse.
Non.
Alors, un peu quand même. Parce que le monsieur, il tient une tête coupée, celle de Méduse. Qui est-ce qui a coupé la tête de Méduse ? C'est pas Jason.
Non.
C'est pas Hercule. C'est Persée.
C'est Persée.
Donc Persée vient délivrer la belle.
Angélique.
Non. Angélique, c'est dans Jérusalem délivrée. Ça commence par An. Andromède. Ah, vous vous rappelez, Andromède était la fille d'un roi. Ce roi était le roi d'un territoire où il fallait régulièrement donner à manger une horrible bête qui dévastait le secteur des jeunes de la ville. Puis un jour, il se trouve que le sort tombe sur la fille du roi. Donc il ne va pas faire autrement que donner sa fille pour que le monstre bouffe la fille. Et que, voilà. Parce que régulièrement, il fallait donner de la pâture à ce monstre. Seulement voilà, Zorro est arrivé, Persée est arrivé, le vainqueur naguère de Méduse arrive et va délivrer la belle Andromède. Et alors de l'autre côté, vous avez une autre scène qui représente...
Eh bien, Persée, Méduse.
Voilà, Persée avec la tête de Méduse. Vous savez, la tête de Méduse avait ça de bien que quand on montrait la tête de Méduse à quelqu'un, elle pétrifiait les gens. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs que quand Persée a combattu Méduse, il l'a fait avec le bouclier que Athéna Minerve lui avait donné, qui était tellement brillant qu'il arrivait à voir Méduse sans la regarder directement. Et le reflet de Méduse ne valait rien. C'était regarder Méduse qui vous pétrifiait. Donc après, il a eu la tête de Méduse, comme ça il pouvait pétrifier ses ennemis. C'est ce qu'il fait là, vous voyez. C'est assez pratique, ça aussi. Alors on aimerait bien de percer parfois. Et puis alors là, vous avez une dernière peinture que nous allons regarder, et que voilà. Ah oui, c'est magnifique, ça. Alors qu'est-ce que vous voyez ?
Une licorne.
Une licorne. Voilà, une vierge qui a son licorne.
C'est pas antique, ça.
Eh oui, c'est pas antique. Pas du tout. C'est quoi ça ? Alors, c'est une jeune fille vierge, c'est pas la Vierge Marie, mais c'est une vierge. Encore que, si vous voulez, jadis, vous allez me dire quand, on voyait effectivement dans la licorne la représentation allégorique de la pureté. Hein, parce qu'elle est blanche, et que la licorne, c'est la pureté. C'est-à-dire le seul moyen de capturer les licornes. Hein. Vous mettez une jeune fille pure dans un bois, les licornes viendront à elle. Si elle n'est pas pure, il y a... C'est comme ça qu'on chassait les licornes. Tandis qu'on n'a pas chassé beaucoup. Hein. Mais voilà. Et donc, oui, vous avez raison, ça, c'est pas du tout un thème... C'est pas un thème antique, c'est un thème qui vient plutôt de quelle période, ça ? Le Moyen-Âge. Hein. C'est un thème de la dame et les cornes. Hein. Donc c'est un thème... C'est assez curieux, parce que par rapport au reste, c'est pas du tout la même chose. Bien. Qu'est-ce que ce décor, avant que nous concluions, pour savoir ce que c'est que ce décor, là c'est moi qui parlerai, qu'est-ce que vous inspire ce décor ? Si vous aviez à résumer ce qu'on a vu, vous diriez quoi ?
Oui,
un décor
romain.
Un décor ?
Romain, structuré.
Oui.
Mythologique.
Mythologique.
forcément princier.
Oui, d'accord, luxueux, oui. Ouais. Mythologique, oui, mais moi j'ajouterais quelque chose de mythologique.
Est-ce qu'il y avait une fonction éducative, pédagogique ?
Sans doute. Et justement, sur ce plan-là, qu'est-ce que vous auriez à dire ? Parce que vous avez remarqué que ce n'était pas simple. Alors, c'est vrai, on voit effectivement, exactement, on voit effectivement beaucoup d'éléments qui montrent certains éléments des caractères des dieux et qui ne sont pas toujours favorables. On va dire ça comme ça. Hein. Ouais.
Ils n'étaient pas souvent gentils.
Pardon ?
Ils n'étaient pas souvent gentils.
Bah absolument, absolument. Absolument.
Leur vie quotidienne.
Ouais. Donc ça montre, j'allais dire, une certaine humanité des dieux.
Ah oui.
Une chose moi, me frappe aussi, c'est ce décor mythologique, c'est pas simplement ben, au centre c'est simple, c'est le rayon de Bacchus. Bon, mais ailleurs, on a un tout ramé quand même, non ? Enfin, on a tout regardé, comme les gens regardaient autrefois. Et qu'est-ce que vous avez remarqué quand vous avez regardé chaque scène ? Par rapport à ce rapport que vous aviez à ces scènes.
Il fallait être
déjà
très féru en mythologie.
Voilà, ça demande quand même. C'est pas simplement Hercule, Jupiter, etc. Il y a des scènes, quelquefois compliquées, on ne se rappelle plus des noms, on ne sait pas à quoi ça correspond. C'est compliqué. Et c'était aussi compliqué à l'époque que ça a été fait que maintenant, si vous voulez. Peut-être plus encore aujourd'hui, parce qu'on a un peu perdu de ça. Mais vous voyez, donc, effectivement, il y a une dimension pédagogique. Quoi. C'est-à-dire qu'on montre ici non seulement une sorte de nature humaine à travers les dieux, et éventuellement leur caractère à leur travers, mais on montre aussi la qualité de ce décor, qui montre pas simplement une mythologie de pacotille, hein, mais qui montre une mythologie exigeante, compliquée, difficile, savante. Hein. On est, donc je dirais qu'il y a, entre les sculptures antiques dans les niches au rez-de-chaussée de cette galerie et les peintures de la voûte, une sorte de concomitance. Quoi. On est dans un décor savant, compliqué, exigeant, qui demande de la culture. Hein. Il y a ces dimensions pédagogiques. Ok. Alors, ce décor, c'est où, c'est quoi, c'est qui ?
Rome, ah. Villa Médicis.
Pardon ?
Rome, Villa Médicis.
Alors, Rome, oui. Villa Médicis, non.
C'est pas que l'extérieur, ça ressemble pas à ça.
Non, mais on n'est pas très loin. Alors, on est bel et bien... Alors, je...
La Villa Borghese.
Non plus.
Farnèse.
Ah.
Farnèse, c'est pas Borghese, c'est Farnèse.
Effectivement. Le palais Farnèse. Alors, on est à Rome, effectivement. Le palais Farnèse, ça vous dit quelque chose ? C'est-à-dire ? C'est l'ambassade de France. L'ambassade de France à Rome, c'est le palais Farnèse. Alors, le palais Farnèse, là, je vous montre une vue de Rome, on ne s'en lasse pas, toujours aussi beau, voilà. Le palais Farnèse, il est là. Hein. Alors, voilà le plan de Rome. Ça, c'est le Vatican. Ça, c'est le Colisée, avec les forums, hein, enfin les forats. Et ça, c'est l'île Tibérine, peut-être pour vous donner un peu d'idée. Eh bien, le palais Farnèse, c'est là. Hein. C'est-à-dire, c'est pas loin du Tibre. OK ? Et le palais Farnèse, le voilà.
Ah oui.
Hein ? Voilà.
Non, c'est les jardins, ils sont à l'intérieur ?
Ils sont derrière. Là, vous avez la façade, le jardin, il est derrière, et le Tibre coule derrière, si vous voulez. D'accord ? Ce bâtiment, il a été construit au XVIe siècle pour le personnage que vous voyez ici, qui est le pape Paul III, Farnèse, et qui est devenu pape sur le tard, parce que ça ne lui a pas empêché avant, dans sa première vie, d'avoir des fils. Alors vous le voyez ici, avec deux de ses petits-fils, hein, Alexandre et Octave Farnèse. Les papes, vous savez, comme ça... un peu, voilà. Et donc, Paul III a fait construire, par un architecte qui s'appelle Sangallo, le palais Farnèse. Hein. Sangallo, d'ailleurs, étant mort un peu tôt, c'est quelqu'un d'autre qui a poursuivi le travail de Sangallo. Et ce quelqu'un d'autre, c'est Michel-Ange. Hein. C'est Michel-Ange qui a terminé la construction du palais Farnèse. Voilà. Donc, très belle façade, hein, sur cette place. Donc, c'est effectivement aujourd'hui l'ambassade de France. Vous voyez le drapeau français et européen. Voilà une vue de la cour intérieure. Et là, je vous montre une vue du premier étage. Et la galerie en question, elle est là. D'accord ? Hein ? Vous voyez, autant le rez-de-chaussée, c'est le niveau domestique, où il y a des salles de service, etc. Autant le premier étage, c'est le niveau à la fois où il y a un certain nombre d'appartements et de salles officielles. C'est le cas de cette galerie qui est, après tout, une des salles les plus importantes de l'étage, hein, et qui donne sur le jardin qui est derrière. Et il se trouve que le pape, n'ayant pas eu le temps de mener le chantier de son palais, bon, pourtant le pape, Paul III, il a une vie longue. Hein. Enfin, voilà, le palais Farnèse n'a pas été terminé de son vivant. Hein. C'est donc son arrière-petit-fils, dont voilà le charmant minois, Édouard Farnèse, qui, à l'extrême fin du XVIe, va commander la décoration de cette galerie qui donnait sur l'intérieur, sur le timbre, si vous voulez, sur le jardin, sur le timbre, à... Exact. Bravo. Au Carrache. Hannibal Carrache, dont vous voyez ici l'autoportrait, et son frère, car les Carraches sont deux, Hannibal et Agostino, Augustin, voilà, Carrache, vont donc décorer la galerie en question. Plus Hannibal qu'Agostino, d'ailleurs. Hein. Mais enfin, les deux frères s'y sont mis, c'est donc à eux qu'on doit le décor. Mais ils ont été également secondés dans cette affaire par trois autres peintres qui vont être des peintres capitaux à Rome, à l'époque du baroque, c'est-à-dire au XVIIe siècle. Hein. Ces trois peintres qui vont aider les frères Carrache, Hannibal et Augustin Carrache, à travailler dans la galerie qu'on appelle la galerie Carrache, d'ailleurs. Hein. On l'appelle la galerie des Carrache ou la galerie Farnèse. C'est la même galerie, celle qu'on a vue aujourd'hui. Hein. Eh bien, les peintres qui vont aider ces deux frères à travailler, c'est Domenico Zampieri, qu'on appelle le Dominicain. C'est également Francesco Albani, que vous voyez ici, qu'on appelle l'Albane, souvent. Et puis c'est également Giovanni Lanfranco, que vous voyez là, qui est d'ailleurs celui qui a fait la Dame à licorne, que vous avez vu tout à l'heure. C'est de Lanfranco. Voilà. Alors, vous avez là, si vous voulez, avec cette galerie Farnèse, réalisée par les Carrache et leur atelier, une galerie fondamentale, parce qu'elle est, comme on l'a vu, la galerie qui va prendre en compte, si vous voulez, ce que Michel-Ange et Raphaël avaient dû faire à Rome, hein, on a vu la Farnésine et la Sixtine, et qui vont, si vous voulez, en faire leur version, que l'on vient de voir là, et c'est ce qui va, et cette galerie Farnèse va avoir un succès mais absolument phénoménal, qui va ouvrir sur toutes les galeries qu'on va voir après partout en Europe, au XVIIe et au XVIIIe. On ne peut pas comprendre Versailles sans connaître la galerie Farnèse, c'est pas possible. La galerie Farnèse, c'est un peu le chaînon entre les grands décors du XVIe siècle, Michel-Ange et Raphaël, et ce qui va se passer après. La galerie des Carrache, la galerie Farnèse, c'est vraiment la rotule qui fait entrer la Renaissance dans la modernité, d'une certaine manière. Voilà. C'est pour ça que c'est un décor fondamental, essentiel, qu'on ne peut pas connaître si on s'intéresse un peu à l'histoire de l'art occidental. Et c'est bizarrement un décor pas très connu. Je ne sais pas, vous le connaissiez, certains d'entre vous sont allés déjà, non? C'est un décor peu connu, et c'est un décor fondamental. C'est pour ça que je tenais absolument à ce qu'on commence cette série sur les grands décors par elle. Je tiens à dire que, sur la clé que je vous ai donnée, vous aurez tout ce qu'on vient de voir, mais vous aurez également les légendes après cette diapo-là, vous aurez les légendes avec tout le détail de tout ce qu'on a vu. Et avec tout. Évidemment, j'avais enlevé les légendes de ce que je m'en ai. Et pourquoi?
Elle peut se visiter?
Oui, comme alors, elle peut se visiter. Alors, elle ne peut pas se visiter. Enfin, si vous y allez comme ça, voilà. Il y a des moments, il y a des jours, il y a des. Non, mais on peut la voir, oui. Elle a été entièrement restaurée il n'y a pas très longtemps. Et voilà. C'est dans les locaux de l'ambassade de France, donc voilà, il y a quelques. Conseil de sécurité, mais il y a des visites possibles, je crois qu'il y en a régulièrement, mais en dehors de ces moments réguliers, on peut demander, enfin voilà, il y a des possibilités. Donc je ne sais pas un lieu accessible comme un musée normal, mais c'est un lieu qu'on peut voir. Donc c'est effectivement un lieu essentiel. La galerie Farnèse, c'est vraiment une galerie essentielle, je voulais absolument qu'on commence par elle. On ne peut pas comprendre la question des grands décors sans passer par la galerie Farnèse. Voilà. Eh bien, écoutez, on se revoit la semaine prochaine.